Ok, c'est la première fois que je dis ça, mais il est midi 15 sur Canal B et c'est l'heure de 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboires ?
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond !
Résistance ! Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bonjour à toutes et à tous, ici Julie, au micro de cette édition. 3 en 1, c'est l'émission d'information locale que vous retrouvez deux fois par semaine, le lundi et le mercredi de 12h15 à 12h45 et en rediff les mardis et jeudis à 8h15. La 47e édition des Transmusicales s'est achevée samedi soir ainsi que le festival des bars en trans qui en était à sa 29e édition. À Canal B, on était bien occupé à couvrir tout ça avec 3 émissions de 2 heures en direct de nos studios pour vous faire vivre les bars en trans pendant ces 3 jours. Ces 3 émissions, on les a faites avec la FERAROC, la Fédération des radios associatives de musique actuelle. On a reçu plus d'une dizaine d'artistes, dont certains et certaines ont joué en live. Et vendredi, l'équipe de Canal B était en direct du Liberté pour un plateau d'une heure dédié au transmusical. Pendant cette émission, on a interviewé différents artistes, mais également diffusé des interviews de ce que l'on va appeler nos grands témoins de la scène musicale rennaise. En fin d'émission, vous entendrez leurs témoignages. Et aujourd'hui, on vous propose pour commencer la rediffusion d'une interview réalisée en octobre, celle de Benjamin Gouezigou, membre du personnel et représentant CGT au Carrefour Alma de Rennes. Mais juste avant, c'est le nouveau morceau de Lin Lin, 9 to 5, que vous avez peut-être vu en concert jeudi si vous étiez au Transmusical. C'est la rediff d'une interview, celle de Benjamin Gouezigou, membre du personnel et représentant CGT au Carrefour Alma de Rennes, réalisée il y a quelques semaines par Lola Renauda et Nina Beltram. Depuis 3 ans, dans la rue comme sur les réseaux sociaux, les salariés de l'hypermarché Carrefour Alma de Rennes dénoncent des conditions de travail dégradées. Le 4 octobre dernier, c'est pancarte à la main que les employés ont dû à nouveau affronter leur direction, au devant même de la devanture du magasin. Lola nous a rejoint en plateau. Bonjour Lola.
Bonjour Nina.
Mais alors Lola, que se passe-t-il au Carrefour Alma ?
Eh bien, c'est tout simplement un ras-le-bol des salariés. Ce qui s'est passé, c'est que le 1er mars 2022, le Carrefour Alma a été placé en location-gérance au profit du groupe brestois Pont de Bois. La location-gérance, c'est le fait de transférer l'exploitation d'un site à une autre société afin de relancer son activité. C'est-à-dire qu'à partir de mars 2022, les contrats de travail des employés du Carrefour Alma ont été transférés à une entreprise créée de toutes pièces par le groupe Pont de Bois, une société qui s'appelle Almaredis pour Almarennes Distribution. Cette entreprise, elle est depuis mars 2022 entièrement responsable de l'organisation et du management des salariés du site. Les employés sont toujours salariés sur le même site, ils et elles ont gardé leur ancienneté et leur salaire, mais elles ne travaillent désormais plus pour le groupe Carrefour, mais pour le groupe Almaredis.
Et c'est ce changement-là qui expliquerait le mécontentement des salariés. Depuis le passage du site en location-gérance, les salariés ont perdu certains de leurs avantages, accordés auparavant par le groupe Carrefour. Ils se sont vus retirer notamment leur 6e semaine de congés payés et leur prime d'intéressement. Leur nombre de jours de congé autorisés en cas d'enfant malade a, lui aussi, diminué.
Et ce n'est malheureusement pas tout. Depuis l'arrivée de leur nouveau patron, l'atmosphère au travail a bien changé pour les salariés. On parle de management toxique et mise sous pression des salariés par la direction. Alors oui, on se le demande, que se passe-t-il réellement au Carrefour Alma ?
Et pour y répondre, tu as reçu Benjamin Guézigou. Il est délégué syndical de la CGT pour l'hypermarché du Carrefour Alma. Il est venu nous parler de ses conditions de travail et de celle de ses collègues, et il a commencé par refaire un petit point sur les raisons qui ont poussé Carrefour à faire passer l'hypermarché d'Alma en location-gérance.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la location-gérance, c'est vraiment un montage purement financier. L'intérêt pour Carrefour, c'est que, bon, ce qui est une surprise pour personne, le modèle des hypermarchés est en perte de vitesse depuis des années. Là, on a vu ces derniers mois, ces dernières années dans l'actualité, des restructurations au niveau des groupes. Bon, c'est là, on sent bien que cette perte de vitesse, Carrefour l'a vu venir. Eux, ce qu'ils ont décidé, c'était de, en lien avec la législation, ils ont compris qu'en pouvant, ils pouvaient transférer les contrats de travail sans perdre le chiffre d'affaires, entre le lien avec ces magasins-là. Parce que le problème, c'est que s'ils vendaient tout, bah, c'était plus à eux. Donc, comment faire en sorte que, bah, ils continuent à gagner de l'argent avec ces magasins-là sans avoir, bah, les dépenses afférentes à ces magasins-là, donc à la gestion du magasin. Et bah, la location-gérance, c'était tout bénef, si je veux dire. Ce qu'il faut se dire, c'est que les locataires-gérance, quand ils reprennent ça, eux, ce qu'ils voient, c'est l'aspect économique d'abord. Je vais reprendre un magasin comme Carrefour Alma. Carrefour Alma, c'est à Pignon-sur-Rue, sur Rennes, Rennes Métropole. En Bretagne, c'est le plus grand hypermarché. C'est intéressant, il y a du business à faire. Bon, le magasin perd de l'argent, très bien, mais moi je vais le redresser parce que, voilà, dans le cas de nous, dans notre cas, c'est on a des magasins déjà, on sait faire. Alors c'est quoi leur marge de manœuvre ? Vu qu'ils doivent en plus bah, payer une redevance à Carrefour, payer les loyers, parce qu'il ne faut pas oublier que les loyers restent à payer pour Carrefour. Eh bien, c'est la masse salariale, très vite. Donc, ils se rendent compte que c'est là où ça va jouer.
Comment avez-vous vécu de l'intérieur ce passage du Carrefour Alma à la location-gérance ?
Donc, ils ne peuvent pas s'attaquer au salaire, ils ne peuvent pas s'attaquer à l'ancienneté, et les congés d'ancienneté, toutes ces choses-là. Par contre, il y a tout ce qui est en effet dans l'accord d'entreprise qui est maintenu pendant 15 mois après le passage en location-gérance, mais au bout de 15 mois, ça tombe. Et donc, c'est là où il y a l'accord de substitution qui permet soit de les maintenir, soit de ne pas les maintenir.
Mais est-ce que ce cas-là du Carrefour Alma est isolé ou c'est assez courant comme situation dans la location-gérance que lors du passage à une nouvelle direction, les anciens avantages des salariés soient revus à la baisse ?
Aucun, je dis bien aucun magasin qui a été repris en location-gérance en France, 100% de ce qu'il y avait avant a été maintenu. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que forcément, bah, ils s'attaquent à un maximum de choses. Et peut-être même, parce que je n'ai pas de recul assez pour dire au niveau de tous les magasins, mais il y a des magasins qui ont eu encore moins que nous. C'est-à-dire réussi à maintenir moins que nous.
Alors, comme je l'ai dit plus tôt, les salariés du Carrefour Alma ont de nombreuses fois manifesté sur les réseaux sociaux et dans la rue depuis ce passage en location-gérance en mars 2022, notamment pour dénoncer la perte de leurs anciens avantages. Est-ce que ce sont les seuls changements que les salariés de Carrefour Alma expérimentent depuis le passage en location-gérance ?
Ce qui a beaucoup aussi changé dans l'entreprise, c'est l'ambiance. C'est-à-dire qu'au niveau de la direction, avant les directeurs étaient des salariés du groupe. Bon, ils appliquaient les directives du groupe. Nous, à la CGT, on savait très bien que c'était un groupe coté au 440. Voilà, le PDG Alexandre Bompard, lui, il a une feuille de route. Et les directeurs, ils l'appliquent. C'était ce qu'ils appellent le dialogue social. Bon, moi, personnellement, j'y crois pas trop parce que de toute façon, ils imposent ce qu'ils veulent à l'arrivée. Mais bon, ils jouaient le jeu des syndicats.
Et à ce propos, quelle est la relation entre les syndicats et le groupe Pont de Bois aujourd'hui ?
Là, on reprend un groupe qui n'a jamais connu de syndicat. Dans toutes les autres structures, donc la trentaine d'établissements qu'ils ont, le groupe Pont de Bois, il n'y a pas un seul syndicat. Pas un seul. Donc, eux, pour eux, ça c'était pareil, un angle mort, c'est pas très très grave. Oui, on verra ça plus tard. Les syndicats, ils s'en fichent et ils allaient mettre au pas les syndicats. Mais vraiment, alors bien sûr, ils ne nous l'ont pas dit frontalement comme ça, mais on l'a très vite compris. Donc, de passer par-dessus les syndicats.
Dans un article pour Ouest France, vous-même, vous parlez d'une certaine surveillance des salariés par la direction. Ce sont des allégations qui sont assez graves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement cette surveillance que peuvent subir les salariés au quotidien ?
Alors, très vite, à partir de mars 2022, quand la nouvelle direction a pris ses fonctions, il y a eu une mise en place, en effet, d'une surveillance généralisée dans le magasin. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était en fait un ami des Guillermes, hein, parce que donc c'est Bernard Guillermes et Pierre-Luc Guillermes qui sont le père et le fils, qui sont les propriétaires du groupe. Et donc ce monsieur, qui était un ami, a été intégré à l'organigramme dans un premier temps de l'entreprise, et son métier, sa fonction, était véritablement de fliquer les personnes. Alors sur le papier, bien évidemment, non. Il était là à chaque fois qu'on posait la question. Il est qui c'est qui ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait, il est là pourquoi ? Il est là pour aider au développement commercial de l'entreprise, il est là pour améliorer le chef. Mais c'était un flicage généralisé. Surveillance, passer plusieurs fois derrière les personnes, regarder sur les écrans d'ordinateur quand les gens travaillaient ce qu'ils étaient en train de faire. Avec son téléphone, prendre des notes en permanence sur les personnes, prendre des photos. Et donc, ça a créé une ambiance mais vraiment très plombante dans le magasin. Vraiment très très plombante.
Mais ce flicage-là, il est plus au niveau des résultats ou du quotidien même, des tâches des salariés
Des tâches des salariés. Au quotidien, en permanence, sur tout. C'est par principe, on se méfie des salariés et on flique. Et donc le but, c'est de créer une ambiance vraiment délétère dans le magasin, mais vraiment délétère. Et ça a été très anxiogène parmi les collègues.
Est-ce qu'on peut parler alors d'un risque psychosocial élevé pour les salariés du Carrefour Alma ?
À partir du moment où quelqu'un est payé pour fliquer en permanence les collègues de manière indéterminée et de manière non discriminatoire, si je peux dire, parce que tout le monde peut être ciblé à tout moment. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas à dire c'est tel, on va cibler à un moment de telle personne parce qu'elle aura contesté l'entreprise, parce qu'elle aura contesté la direction. Ben oui, je peux dire que les risques psychosociaux sont importants dans l'entreprise. Bien évidemment, le mal-être, la plupart des chefs, quand ils voient le nom du directeur général qui s'affiche sur le téléphone, ils ont la boule au ventre. Ils me le disent, on a la boule au ventre, il faut aller dans le bureau. Et c'est très compliqué. Des collègues m'ont raconté que, pour vous dire, on parle des risques psychosociaux, qui faisaient bien leur travail, et bien lui repassait derrière, il défaisait ce qui avait été fait par les collègues et il prenait des photos. Il prenait des photos pour les piéger. Ça, c'est des collègues qui m'ont raconté ça. J'ai fait répéter mon collègue deux fois quand il m'a dit ça. C'est-à-dire qu'on crée des pièges. Pourquoi ? Si la personne conteste, on aura un dossier contre elle. Et on monte des choses. C'est, voilà, ce consultant qui ne fait pas partie de l'entreprise et dans le local vidéo, ce qui était pas interdit. C'est un consultant, qu'est-ce qu'il va faire dans le local vidéo de l'entreprise ? Et le 4 octobre, une des revendications, c'était que ce monsieur-là, à un moment donné, ne soit plus parti de l'entreprise, parte, et les salariés étaient mobilisés aussi là-dessus, parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Ils n'en peuvent plus. Et moi, j'ai tous les jours des témoignages des gens qui me racontent que c'est la surveillance constante et qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Ils n'en peuvent plus. Bellow, who will believe we got par? It's a sign of the times, like a cliche, written non-stop. Full metal jackets get sprung, tanks are boiling, a bag the gunner. Stop, there's a drop-off. Auntie Aaron Vladimir's guy's top off. This guy's top off, quick, reach for your bits. Shit, he's so fit. Big banger, number 10, can't give you that Bruce Banner. I got crisis stamina, full marathon, four poop breaks. I can feel the ship. Your crisis race, spray out
because in England nobody can hear you scream, you're just folk lads. This is UK Grimm, keep that desk here, tiger, put it in the bin. This is UK Grimm. This is UK Grimm, keep that desk here, tiger, put it in the bin. This is UK Grimm. An hypocritical fate. There's no top five album when you're off the grid. Fuck all that, I'm not here to please you, mate. Liz Truss, conformity. The smooth streets in the business quarter, where the white Range Rovers haunt. They sound lovely. White shirts and lunch bellies, threesomes and wealth measles penetrate the cornflakes. I want it all like a crack forest gatto. I do drugs in my head so I can still go to bed as I pan the slabs of this dream. This is UK Grimm, keep that desk here, tiger, put it in the bin. This is UK Grimm. This is UK Grimm, keep that desk here, tiger, put it in the bin. This is UK Grimm. Smash the mindset, but when it's gone, need the trails in the mindset. But when they come like a dome rage, smash the mindset.
Vous écoutiez UK Grimm de Sleaford Mods, un titre pas du tout nouveau, mais qu'il fait bon de réentendre sur Canal B.
Cette situation, elle traîne depuis de nombreux mois. On a un peu l'impression d'un œil extérieur que ça n'avance pas, que c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des discussions avec Almaridis ?
Il n'y a pas de discussion, en fait. Il n'y a pas de discussion. Il y a d'un côté, on va dire, d'un point de vue un peu frontal, il y a la direction d'un côté qui suit son schéma à elle, qui prend ses décisions non concertées, qui impose sa vision des choses. Et de l'autre, si on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire à communiquer là-dessus, c'est parce que oui, bah la CGT du magasin, entre autres, et les élus de la CGT ont décidé de pas se laisser faire. Et en lien avec les collègues, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que nous on veut surtout pas que ce soit un duel en réunion entre la direction et la CGT, mais bien le collectif organisé des salariés face à cette direction qui impose une véritable dictature, oui, dans l'entreprise. C'est-à-dire que nous on veut surtout pas que les collègues viennent en rasant les murs. On veut qu'à un moment donné les collègues ils puissent exercer leur travail, le faire. Peut-être éventuellement se tromper, commettre des erreurs comme tout à chacun, mais sans avoir à se dire à chaque fois qu'on risque pour notre emploi, on risque parce que si on émet un désaccord avec la direction, on se retrouve dehors, ce qui était le cas.
C'est quoi la suite de vos actions en tant que syndicat et salarié ?
Donc là, la grève qui a eu le 4 octobre, alors c'est pas la première hein, depuis qu'on est passé en location gérance, hein, il y a eu quand même plusieurs mouvements, des mouvements à la suite de licenciements de collègues. Hein, je vous rappelle que l'an dernier, notre collègue Catherine Antoine, qui a été licencié après 41 ans d'ancienneté au sein du groupe Carrefour et qui, à un an de la retraite, a été licencié en plein droit d'alerte, alors qu'on faisait un droit d'alerte justement parce qu'il y avait des difficultés au niveau du secteur culture EPCS avec le management qui était en place. Donc, un droit d'alerte a été mis en place.
Pour rappel, un droit d'alerte permet aux membres du CSE d'une entreprise de demander des explications à l'employeur dans des situations spécifiques à risque pour les employés.
Il y avait une grande souffrance, elle avait d'ailleurs exprimé sa souffrance, elle avait tenu même des propos suicidaires, donc il y avait, on avait alerté la direction. Deux, trois semaines après, elle a été licenciée. Donc ils ont prétexté autre chose, donc voilà, pour la licencier. Mais voilà, donc quelqu'un qui était en grande souffrance, qui est en plein droit d'alerte, a été licencié. Voilà la direction qu'on a. Donc ça, on a réagi, parce que nous, ce qu'on refuse, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait des licenciements, bah, ce soit la peur qui prédomine, et qu'à la fin, bah, tout le monde se sente paralysé, et que la seule solution, finalement, soit les démissions. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un turnover qui est très très important dans le magasin.
Vous nous avez parlé de différentes choses, de la dégradation de l'atmosphère de travail et des relations entre la direction et les salariés. Au-delà de vos constatations de terrain, est-ce qu'il y a des experts ou des expertes extérieures à l'entreprise qui ont confirmé et étayé vos ressentis ?
Donc nous avons fait une expertise avec un cabinet indépendant en début d'année. Cette expertise qui était à la fois sur la situation financière et la situation sociale. Sur la partie financière, elle a démontré que le magasin aurait du mal à s'en sortir avec le contrat de location-gérance tel qu'il était. C'est-à-dire que même si on améliorait, qu'on mettait un certain nombre de choses de manière opérationnelle dans le magasin, pour le faire, le contrat tel qu'il était, le montant des redevances était tellement élevé que c'était compliqué pour le magasin de s'en sortir. Donc ça, c'était un aspect des choses. La direction ne nous a pas dit qu'elle renégocierait le contrat lorsque lui a dit l'expert qu'il faudrait faire. Mais bon, il faut bien savoir qu'un rapport d'expert, c'est pas contraignant, c'est juste des indications. Ça a été fait conjointement avec la direction, parce que la direction doit donner les documents. Ils ont l'obligation de donner les documents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert qui a mené cette expertise, de fait, a dit, et je dis bien, c'est ses mots, hein, qu'en 30 ans, que lui, il avait 30 ans d'ancienneté, il n'avait jamais vu une entreprise comme la nôtre. C'est comporté de cette manière-là, c'est-à-dire refuser de donner les documents à l'expert. On a eu quelques documents, donc l'expertise a été factuellement amorcé fin novembre. On a eu quelques documents mi-décembre, mais des documents importants comme le contrat de location-gérance ou les comptes du groupe, le groupe Pont de Bois, ils ont refusé de les donner.
Depuis que ce rapport d'expertise sur la situation sociale et financière de l'entreprise a été rendu, est-ce que la situation, elle a évolué ?
L'avantage de ça, c'est que maintenant qu'on est autour de la table et qu'on parle des chiffres, on ne peut plus dire essayer d'avoir un ou deux chiffres et puis le reste, et on essaye de deviner un peu parce que la direction ne nous donne pas les chiffres, c'est qu'on les a maintenant les chiffres. Donc là, c'est incontestable. Donc, c'est quand même pas du tout la même chose, déjà dans la discussion avec la direction et dans les raisonnements qu'on peut faire. Et les collègues, ils nous disent, oui, là, maintenant, c'est du certain. Sur l'aspect social, pour revenir sur le turnover, donc l'expert a dit que le taux de turnover était beaucoup plus important que la moyenne du secteur, et trop important. Ce qui dénotait un malaise dans l'entreprise. Les gens, à un moment donné, ne restaient pas. Et donc là, par exemple, là, aux dernières réunions du CSE en septembre, il y avait plus de sorties, donc plus de gens qui partaient de l'entreprise que des gens qui rentraient dans l'entreprise.
Vous avez évoqué la construction d'un rapport de force entre les salariés et la direction qui s'est faite petit à petit, puisque l'équipe salariée de Carrefour Alma est désormais rattachée uniquement à l'entreprise Alma Redis et plus aux autres salariés du groupe Carrefour. Le nombre d'employés du site est réduit. Et par conséquent, vous avez moins de poids et moins de soutien. Est-ce que c'est cette situation d'atomisation des salariés qui pourrait expliquer la difficulté de construire ce rapport de force aujourd'hui ?
En effet, c'est un élément qui fait que quand on est dans un groupe intégré avec des syndicats dans quasiment chaque établissement, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et comme je vous dis, les directeurs étaient salariés, donc eux, ils avaient des directives. Donc les directives, c'était souvent de pas, entre guillemets, mettre le feu dans le magasin, c'était de gérer, d'essayer de canaliser un peu les revendications des syndicats. Là, c'est sûr que quand on passe en location gérante, c'est là où, je pense qu'on teste véritablement la solidité des syndicats et des organisations, des collectifs, j'ai envie de dire, qui ont été construits. Parce que quand on vivait avec des syndicats qui étaient au niveau central, on pouvait gérer les affaires quotidiennes, Mais là, c'est fini. Là, on est en face de nos employeurs directs et ça rigole pas. Hein.
Merci Benjamin Guizigou d'avoir été avec nous en studio à Canal B. Et merci à Lola Renauda pour la tenue de cette interview. Pour information, nous avons essayé de contacter la direction du groupe Alma Redis par email, mais n'avons pas reçu de réponse.
Et ce midi, on vous propose un retour sur les trans musicales, mais cette fois-ci, place au grand témoin de la scène musicale rennaise. L'artiste Wonderboy, la présidente de l'asso Rituel 111, Manon Audi, le cofondateur de 808 Bloom, Kumo, et la musicienne violoncelliste Eva Cloto nous parlent de leur rapport aux trans musicales.
En fait, de par mon travail à Rituel 111 sur de la programmation d'événements, je pense que ma venue en tant que professionnelle au transmusical, c'est surtout pour voir des nouveaux groupes et construire une programmation sur l'année qui arrive, de voir ce qui est possible avec les groupes, de voir lesquels ont besoin de revenir jouer à Rennes ou non. Et en dehors de Rituel 111, j'ai aussi un label qui s'appelle Swish Swash Records, avec lesquels on est toujours aussi à la recherche de découvertes et de nouveaux groupes à sortir sur le label ou à soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que oui, ma première envie, en tout cas en tant que professionnel au transmusical, c'est toujours de découvrir en fait, et de faire découvrir aux autres aussi.
Leur dispositif d'accompagnement à l'année participe grandement à la découverte de certains et certaines artistes rennais. Il y a par exemple Odonella qui aujourd'hui est accompagnée par les Trans, qui est vraiment une artiste que moi personnellement j'adore.
Pour moi, j'ai l'impression que toutes les organisations et tous les festivals de Rennes contribuent à l'émergence des groupes rennais, parce que c'est quelque chose qui est, je pense, dans le cœur de beaucoup d'associations et de beaucoup de festivals. Maintenant, les Trans Musicales, avec leur programme d'accompagnement de groupes rennais, ils accompagnent, j'ai envie de dire, 3 à 5 groupes tous les ans à l'émergence. Ils les accompagnent sur des aspects administratifs, des aspects de coaching scénique, de tournée, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment un accompagnement qui est assez propre au transmusical et qui est propre à leur savoir-faire de mettre en avant les artistes. C'est vraiment quelque chose de sur la promotion d'artistes et sur les faire avancer dans leur carrière. Et je pense que ce programme-là, il n'est pas en place depuis très longtemps, mais pour le coup, il y a tellement d'artistes traînés qui sont passés par là.
Moi, je suis Wonderboy. Je suis un musicien rennais. Je suis à Rennes depuis pas mal d'années maintenant. Et je me souviens de mes premières trans quand j'étais à la fac. J'avais commencé mon projet à Paris. J'arrive à Rennes, je rencontre des musiciens cool. On met ça ensemble. Et Wonderboy, ça devient un trio. Et en 2011, avec un pote à l'éclairage et un pote au son, on a bien bossé avec cet accompagnement transmusical. La tournée trans, ça nous a fait bosser, c'était hyper cool. Super scénographie, ça nous a fait juste progresser et passer des super moments ensemble. On était très potes et l'encadrement était hyper cool et on a passé des super moments sur scène. On est invité à aller discuter dans le bureau de plein de choses. On est conseillé sur des petits détails. Je faisais des chansons dans ma chambre et là, on me dit que je vais être payé pour aller les... et que mes potes vont être payés aussi. Et on commence à parler détails et là, c'était ça qui me bottait à fond à cette époque-là. C'était de professionnaliser le truc, quoi.
Si je devais changer quelque chose dans les trans, par exemple, ce serait plus de techniciennes en backstage. Ça, j'ai vraiment trouvé l'année dernière que c'était hyper particulier, ce monde quasiment que de maxis qui sont en train de faire de la technique et qui fourmillent de partout. Et c'est particulier, il y a moins de femmes sur scène, moins de femmes en backstage ou de personnes pas maxis. C'est quand même particulier. Donc j'encourage encore les festivals à faire un travail là-dessus. Ce qui me questionne aussi sur les trans musicales, c'est la création d'un village instantané pour un seul week-end où des gens travaillent pendant une année entière pour ça et qui est détruit juste après. Et il y a beaucoup de choses qui sont détruites, il y en a certaines qui sont réutilisées, mais c'est impressionnant ce qui est jeté et ce qui est créé exclusivement pour l'occasion, alors que le festival n'est pas si accessible, il n'est pas si cher pour toute la programmation musicale, mais quand même tout le monde ne peut pas y aller, et c'est pour un certain public. Ça, je pense, ça questionne carrément. Ouais.
Sinon, ça serait aussi d'inviter ces différentes associations et acteurs culturels de quartier à venir effectivement se produire directement au Parc Expo, et donc de ramener aussi une population différente au Parc Expo à partir du moment où les tarots sont accessibles et qu'il y a une prise en compte des mobilités et des tarifs en fonction des foyers.
Trois en un, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Benjamin Guézigou, délégué syndical de la CGT pour l'hypermarché du Carrefour Alma, d'avoir témoigné sur les conditions de travail du plus grand supermarché de Bretagne. Merci également à Wonderboy, Eva Cloto, Kumo et Manon Audi de nous avoir partagé leur rapport au transmusical. Aujourd'hui, l'émission vous était présentée par Julie. À l'interview, c'était Lola Renauda et Nina. Et au montage et témoignage, c'était Manon Potier. Vous nous retrouverez en diffusion dès demain 8h15, puis on se retrouve mercredi prochain à 12h15. En attendant, n'hésitez pas à réécouter les émissions spéciales Bar en Trans et Transmusical de la semaine dernière via le podcast de l'émission, mais aussi tous les autres programmes de Canal B sur notre site internet canalb.fr. Bon après-midi!